DW. Droits et libertés.
Parmi les réfugiés qui vivent dans l'est de la RDC, une femme sur dix affirme avoir subi des violences sexuelles. Et encore, les viols, les abus sexuels ne sont qu'une partie des violences que vivent au quotidien les habitants de l'est de la République démocratique du Congo, où s'affrontent toujours les armées rwandaises et congolaises, qui chacune s'appuie sur des groupes d'hommes en armes, le M23 pour le Rwanda ou les Wazalendo pour les Congolais. Et souvent, en plus des combats, les civils subissent aussi des attaques de la part de ces combattants qui commettent des actes odieux en toute impunité. C'est donc de la population civile dans l'est de la RDC que nous parlons aujourd'hui avec Clémentine de Montjoie de l'ONG Human Rights Watch et Christopher Mamboula de Médecins Sans Frontières. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde.
La situation humanitaire en RDC est désastreuse.
Thérèse Nzalekové, chargée de programme au Fonds pour les femmes congolaises.
Elle est caractérisée par un taux très élevé de déplacés internes, la montée de l'insécurité alimentaire et le fléau des violences sexuelles et sexistes. Plus de 7,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, la majorité, 94%, concentrées dans les quatre provinces orientales, notamment l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Tanganyika. Le plan de réponse humanitaire est plombé dès lors qu'il n'est financé qu'à hauteur de 37%.
L'ONG Human Rights Watch s'inquiète aussi des dangers encourus par la population, notamment dans la province du Nord-Kivu, dans les camps de réfugiés et déplacés de la région de Goma. Clémentine de Montjoie, chercheuse principale sur l'Afrique à Human Rights Watch, basée à Nairobi, explique en quoi leur situation empire depuis le début de cette année.
Nous sommes particulièrement préoccupés maintenant à cause de la dégradation de la situation depuis le début de l'année, quand les forces rwandaises et les M23 ont essentiellement encerclé la ville de Goma, où se trouvent non seulement les résidents de Goma, mais environ 500 000 de personnes déplacées dans des camps autour de la ville qui cherchaient à se réfugier et à trouver la sécurité. Malheureusement, ce n'est absolument pas ce qu'ils ont trouvé puisqu'ils se retrouvent confrontés à des tirs d'artillerie de la part des forces rwandaises et des M23 qui ont touché les camps de déplacés. Un cas en particulier a fait 17 morts, dont 15 enfants, mais aussi à des abus de la part des forces congolaises et des milices auxquelles elles se sont alliées, qui entrent dans les camps, tirent à feu ouvert, ont exécuté des civils, des jeunes enfants par moment, des cas de viol en quantité absolument ahurissante. Maintenant, lorsque les échanges de tirs commencent, et parfois cela vient aussi de la part des forces congolaises qui ont placé des positions d'artillerie très proches des camps, la peur, la crainte qu'il y ait des ripostes du côté rwandais M23 fait que effectivement les organisations humanitaires et autres s'abstiennent d'aller dans les camps.
Vous citez par exemple un père qui avait quitté, je crois, la ville de Sake au moment de la progression de l'arrivée du M23 pour trouver refuge près de Goma, dans un camp, et qui a retrouvé ses enfants en petits morceaux qui avaient explosé suite à des tirs.
C'est difficile de vous transmettre en fait le niveau de brutalité auxquels les gens sont confrontés. Les gens partent la journée, et puis si un obus ou une roquette tombe dans le camp, il y a un risque que leurs enfants auront été affectés. On a 15 enfants tués le 3 mai. On a interviewé plusieurs parents de ces enfants, dont un dont le corps était entièrement brûlé à cause de la roquette qui était tombée, qui a perdu deux de ses enfants. Et c'est vraiment... L'impact de ces armes est vraiment peut-être dévastateur.
Donc là, il est question des armes lourdes, mais cela dit, vous avez recensé de nombreux crimes qui ont été perpétrés sciemment contre des civils. Vous avez évoqué les viols déjà. Il y a des témoignages d'un acte de torture qui aurait été répété qui s'appelle le Kiboro, un trou dans lequel on enterre, on enferme des gens pour leur extorquer de l'argent, les faire plier, une torture aussi psychologique. Là, les personnes qui commettent ces crimes-là savent bien qu'en face d'eux, ce sont des civils et pas des combattants armés.
Oui, absolument. Oui. C'est une des conséquences de la décision des forces armées congolaises de s'allier avec une coalition de groupes armés qui s'appelle les
Les
Wazalendo,
Wazalendo, oui.
des groupes armés abusifs, dans un contexte d'impunité quasi totale.
Est-ce que c'est pas d'autant plus difficile quand il y a un mélange comme ça d'armées régulières, que ce soit les forces de défense rwandaises ou les FARDC côté congolais, et de groupes armés plus informels, comme le M23 ou les milices qui se sont constituées?
Effectivement, il faut qu'il y ait des processus judiciaires qui se lancent pour assurer de mettre fin à l'impunité. Mais il faut aussi, bien que nous, de notre côté, nous appelons à ce qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda et les commandants du M23 pour leurs actions, il faut aussi que les forces congolaises fassent de même pour leurs propres forces qui commettent des abus. Les commandants peuvent être tenus responsables au titre de la responsabilité de commandement, s'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'abus commis par des forces sous leur contrôle. Ils ont une responsabilité à faire appliquer le droit humanitaire et à protéger les populations civiles, des personnes déplacées de ce type d'abus.
Pour en revenir aux conditions de vie des personnes déplacées, il faut imaginer la promiscuité et l'insalubrité des camps formels ou informels dans lesquels ces personnes vivent. Médecins sans frontières fait partie des organisations qui continuent, quand elles le peuvent, à intervenir sur place. La semaine dernière, une tribune a été publiée dans le quotidien Le Monde par des représentants de MSF qui essaient d'alerter les dirigeants et les opinions publiques sur la gravité de la situation dans le Nord Kivu. Pour rappel, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU que 61 000 victimes avaient pu être prises en charge au premier semestre 2024. Cela représente une augmentation de 10% par rapport au premier semestre 2023 des violences sexuelles, soit une victime toutes les 4 minutes. Nous recevons Christophe Amamboula, qui coordonne les programmes de MSF en RDC et dans d'autres pays de la sous-région. Il explique pourquoi le nombre de personnes victimes de violences, notamment sexuelles, avancées par les organisations humanitaires, est encore sans doute bien en deçà de la réalité.
C'est pas tout le monde qui ose ou qui se sent en sécurité aussi à vouloir ou à pouvoir présenter dans les structures. Deuxième chose, c'est ces personnes-là. On a certains qui, c'est même plus qu'une fois.
Du fait de la dégradation des conditions de vie, de plus en plus de femmes, notamment, sont obligées de s'adonner à ce qu'on appelle le sexe transactionnel, c'est-à-dire pour obtenir des contreparties.
Des gens qui se retrouvent dans les camps des déplacés, sur différents sites, reçoivent de l'aide, mais qui n'est pas du tout adéquate. La distribution de nourriture et de vivres, en fait, qui n'est pas régulier, qui ne remplit pas tous les besoins nécessaires pour une famille ou pour les foyers, et en conséquence, des gens qui doivent sortir aller chercher. Surtout des femmes sortent de ces camps-là pour aller chercher du bois ou chercher des petits emplois, aller travailler au champ, etc. Bah, des fois, ils sont forcés, si vous voulez, aussi à passer au travers cette transaction. On fait ça juste pour pouvoir vivre. C'est aussi des fois même pour avoir l'accès au champ, avoir l'accès à pouvoir chercher du bois, etc.
Et il y a tout le problème aussi de l'accès aux installations sanitaires, aux soins de santé.
Des fois, on a certains camps où il y a un seul acteur médical présent qui offre certains soins selon aussi le moyen qu'ils ont à leur disposition. Donc effectivement, on peut avoir des gens qui se focalisent sur les femmes enceintes, il y a des gens qui focalisent seulement sur les enfants, et même les enfants malnutris dans une situation qui, on peut dire, tout le monde est par défaut vulnérable aussi.
Oui, d'autant que dans ces camps de déplacés, il y a des besoins d'urgence, il y a les besoins liés au combat, donc de chirurgie par exemple, j'imagine, mais aussi il y a toutes les maladies chroniques qu'on retrouve ailleurs dans toutes les autres populations.
Exactement. C'est ça aussi qui est problématique parce que Nous avons la question de maladies transmissibles. Il y a quelques mois, surtout en 2023, où il y avait la rougeole. Nous parlons de la paludisme. Nous avons aussi les autres nécessités ou les autres de santé. Donc, par exemple, les femmes qui sont arrivées dans les camps déjà avec une grossesse, bah, ils doivent être suivis, ils accouchent. Ça ne va pas attendre parce qu'on est dans un camp. Donc, évidemment, des gens qui ont, comme vous avez dit, les maladies chroniques et ou non transmissibles, donc les diabètes, et on peut juste imaginer la transmission des maladies comme la tuberculose dans une situation pareille. Donc oui, c'est des grands défis, surtout sur le plan sanitaire.
Le problème de l'accès aux installations sanitaires aussi, quand on a autant de gens sur un tout petit espace, il n'y a pas de toilettes pour tout le monde.
Malheureusement, la géographie aussi d'une ville comme Goma, c'est très, très, très problématique dans le sens où creuser une latrine sur des rochers, parce que c'est des terres volcaniques, c'est très, très compliqué. Il n'y a quasi pas d'infiltration, donc ça veut dire qu'il faut faire la vidange parce que ça remplisse vite, parce que nous parlons, il y en a certains endroits où il y en a 100 personnes, 200 personnes pour un seul latrine. Sans parler même des douches qu'il n'y a pas assez, etc.
Quelle réponse y apporter pour que la situation de ces personnes s'améliore?
Nous appelons une amélioration aussi de coordination de l'aide humanitaire. Nous avons quand même une pléthore aussi des acteurs à la fois local, congolais et aussi international, pour s'assurer qu'il n'y a pas des doublons dans certains endroits et un manquement total dans certains d'autres. Nous parlons aussi de même le financement qui n'est pas à 100%. Finalement, on a des manquements partout.
Christophe Mamboula, un grand merci.
Je vous en prie, merci beaucoup.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Clémentine de Montjoie de Human Rights Watch et Christophe Mamboula de Médecins Sans Frontières. Pour podcaster Droits et Libertés, allez voir sur dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.